Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance, en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, pour notre émission Petit sujet psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous, Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delaize. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Avant un match de foot, de basket, une course à pied ou à vélo, une randonnée, veillez au contenu de votre assiette. On entend d'ailleurs souvent dire qu'il faut manger des pâtes. Pourquoi ? Voici la réponse. En fait, plus que les pâtes, ce sont les féculents qui sont importants. Du riz, des pommes de terre ou de la semoule alimentent aussi les muscles en énergie. Les féculents sont en effet des glucides qualifiés de complexes ou lents, car leur assimilation par l'organisme se fait lentement, de façon étalée dans le temps. Par opposition aux glucides rapides, leur digestion et leur passage dans le sang, et donc leur assimilation par les muscles, sera très progressive. Avant un effort d'intensité modérée à soutenue, les sportifs ont donc tout intérêt à constituer des stocks de glycogène, la forme sous laquelle les glucides sont transformés. Voilà pourquoi, les 2 ou 3 jours précédant la compétition, ils doivent privilégier les pasta parties. Et plus le sportif dépense de l'énergie, plus il doit augmenter ses apports en sucre complexe. Vous êtes un adepte des pâtes ? Veillez surtout à la cuisson. Préférez-les al dente. Trop cuites, spaghettis, tagliatelles et autres penne se dégradent en sucre rapide. Elles perdent ainsi tout intérêt pour le sportif. Et n'ajoutez pas non plus une sauce trop riche en matière grasse. Un simple filet d'huile d'olive et quelques feuilles de basilic régalent déjà les papilles. Sachez enfin que les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles ou les haricots blancs fournissent aussi des quantités intéressantes de glucides complexes. Elles vous permettront de varier les plaisirs. Leur digestion toutefois sera plus laborieuse car elles sont particulièrement riches en fibres.
Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
Bonjour à tous. Une alimentation riche en fruits et en légumes contribue à une bonne santé cardiovasculaire, mais elle ne serait pas suffisante pour contrebalancer les méfaits d'une nutrition riche en sel. On le sait, une consommation trop élevée de sel favorise la survenue d'une hypertension artérielle. Pour contrer ces méfaits sur la pression artérielle, beaucoup imaginent que manger de grandes quantités de fruits et de légumes, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, pourrait aider. Selon des chercheurs londoniens, il n'en est rien. En fait, si bénéfiques soient-ils, ces produits ne seraient pas en mesure de neutraliser l'influence néfaste du sel. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont suivi entre 1997 et 1999, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Chine, 5000 personnes âgées de 40 à 59 ans. Des mesures de taille, de poids, de pression artérielle, ainsi que des examens d'urine ont régulièrement été effectués. Par ailleurs, leurs apports en nutriments, pouvant être liés à une pression artérielle basse, vitamine C, fibres et acides gras oméga 3, ont été contrôlés. Résultat, les chercheurs ont bien observé un lien entre l'hypertension artérielle et un apport élevé en sel, et ce, même chez les personnes présentant de grandes quantités de nutriments essentiels. Comme le rappellent les auteurs, il existe aujourd'hui une épidémie d'hypertension artérielle liée à une consommation élevée de sel. Cette recherche montre qu'il n'est pas possible de tricher quand il s'agit de réduire la pression artérielle. Un régime pauvre en sel est donc essentiel, même si votre alimentation est saine et équilibrée.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé, que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine, à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damary-lès-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous, Petit sujet psychologique. J'y reçois Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute.
Bienvenue à notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Raphaël. Bonjour.
Bonjour.
Alors Raphaël, vous intervenez ici d'une manière tout à fait spéciale. Vous allez apporter votre témoignage de vie. Nous sommes dans le cadre thématique qui est lié à cette émission, qui est proposée régulièrement sur cette antenne avec Éléonore Tarlet, qui est psychologue. Mais aujourd'hui, vous souhaitez venir à ce micro pour apporter votre témoignage lié à votre parcours de vie et à un parcours thérapeutique en quelque sorte.
Oui, alors j'ai eu la chance de découvrir le MDR que pratique ma psychologue il y a un petit peu plus d'un an. Je vais dire tout de suite que c'est vraiment une chance parce que la progression a été extrêmement rapide. Auparavant, par contre, depuis de très nombreuses années, j'ai été suivi...
Quand vous dites de très nombreuses années, c'est combien d'années ?
Alors, c'est depuis mes 5-6 ans, parce que bon, j'avais des soucis psychologiques des enfants.
D'accord.
Il y a des expériences de l'époque.
Oui.
Et donc j'ai été pris en charge, pas tout le temps, mais assez régulièrement, par d'autres formes de psychologie, donc par exemple la psychanalyse, que j'ai eu à suivre de temps en temps au cours de ma vie. Et depuis 5-6 ans, suite à un événement de vie particulier, le décès de ma mère par exemple,
oui,
j'ai commencé à me sentir beaucoup plus mal. Et donc là, j'ai voulu prendre en main ma santé et puis améliorer les choses. Donc je me suis réengagé encore dans une psychanalyse et et un suivi médical, donc avec un médecin.
Oui.
Et ça s'est vraiment pas bien passé, quoi. Mon état se dégradait continuellement.
Vous avez pas vu d'amélioration?
Ah non, c'était le contraire.
C'était le contraire.
J'avais des idées noires, enfin j'étais vraiment pas bien du tout. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, on a commencé à me parler, c'est ma fille en l'occurrence,
oui,
qui avait découvert le MDR pour elle, pour d'autres raisons.
Le MDR, vous pouvez rappeler ce que c'est?
Donc c'est une thérapie qui est entre autres basée sur le mouvement des yeux, de désensibilisation, d'événements traumatiques notamment, en particulier.
Enfin,
c'est en particulier pour ça. Comme elle voyait que mon état s'améliorait pas, elle a vraiment insisté pour que j'essaye autre chose. Et alors comme je m'étais retrouvé à la fin à l'hôpital, enfin dans un état pas possible, je me suis dit bon, c'est pas possible de continuer
comme
ça.
En grande détresse en fait.
En très grande détresse, mmh, oui. Mmh. En crise d'angoisse continuelle, j'ai décidé d'essayer autre chose.
D'accord, et cette autre chose, c'était le MDR justement.
C'était le MDR que je connaissais pas du tout. Aucun médecin m'en avait parlé, j'en avais vu quelques bribes dans quelques émissions à la télé, mais c'était présenté de manière très caricaturale. Donc je me disais comme tout le monde, mais c'est quoi ce truc-là, quoi ? On bouge les yeux, ça soigne, c'est n'importe quoi. Enfin, et en fait, j'ai découvert
Donc vous avez pris la décision de le faire.
J'ai pris la décision.
Et comment ça se passe alors à la première séance?
Bah, la première séance, j'ai découvert. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Mais très rapidement, j'ai senti les bénéfices.
Oui.
Faut savoir qu'il y a d'abord tout un protocole de mise en sécurité pour que le patient se sente bien. Donc, on évoque des souvenirs qui sont agréables, on met en place un renforcement pour que ces souvenirs soient plus faciles à évoquer.
Parce donc, il y a de toute façon un travail thérapeutique qui se met en place.
Tout à fait. C'est vraiment, enfin, on parle hein, aussi. Mmh, Et puis, il y a un moment où certains événements plus traumatiques sont traités. Donc, on les évoque toujours en sécurité, parce que c'est très difficile. Et c'est là que le protocole avec le mouvement des yeux se met en place. Alors, ça dure 2-3 minutes, puis il y a plusieurs... c'est une minute. Et puis, il y a plusieurs séquences. Et alors là, j'ai trouvé ça bluffant. Je ressens des choses sur le coup, des soulagements, comme s'il y avait des émotions qui se libéraient. Et sans qu'on puisse vraiment dire quoi, mais on ressort soulagé de quelque chose. C'est vraiment incroyable, c'est complètement bluffant.
Et donc vous suivez cette thérapie depuis un peu plus d'un an?
C'est ça.
Et vous en êtes où au bout de cette année de thérapie?
Ah bah, un grand changement, puisque quand j'ai commencé, j'étais donc encore hospitalisé. En détresse, je prenais beaucoup d'anxiolytiques, je travaillais plus, j'étais en arrêt maladie, je pouvais même pas lire, je pouvais pas regarder la télé, enfin je pouvais rien faire. En quelques mois, je suis retourné au travail, j'ai repris des activités, je refais de la musique, je refais du sport.
Vous avez diminué les anxiolytiques?
J'en prends plus. J'ai dit à mon médecin, je suis désolé pour vous, je guéris sans vous, quoi. J'ai fait autrement.
Il devait être content quand même.
Oui, bien sûr. Je suis tombé sur un psychiatre qui était un peu plus ouvert, hein, parce que quand je lui dis que je faisais l'EMDR, il me fait certains de mes collègues le font.
Donc, oui, vous avez rencontré des résistances de la part de,
alors, pas de sa
certains
part à lui,
personnels
oui,
médicaux
à l'hôpital, oui. Clairement, on m'a clairement déconseillé de le faire.
D'accord.
On m'a dit surtout faites pas ça, on récupère les gens dans un état pas possible, alors que j'étais moi dans un état pas possible.
Et donc votre message de conclusion, si vous devez en avoir un envers les auditeurs, ce serait lequel?
Bah, ce serait qu'il y a d'autres formes de thérapie possibles que celles qui sont parfois officiellement proposées, que faut se lancer, parce que faut essayer en fait, parce que si on se contente d'écouter les messages qu'on voit comme ça, on comprend pas ce que c'est. Donc moi j'ai une formation scientifique, donc j'ai une certaine rigueur, je pense, et je l'ai retrouvée, cette rigueur, dans la démarche de l'EMDR. Donc c'est vraiment en phase avec ma façon de penser.
Par contre, il y a peut-être quelques précautions à prendre, s'adresser à un bon praticien.
Clairement, oui.
Oui, ça c'est
parce
important aussi. Hein.
On manipule souvent des souvenirs complètement explosifs. Et en fait, c'est le problème que j'ai eu avec la psychanalyse, c'est que c'était pas géré derrière. Alors que là, au contraire, les souvenirs sont gérés tout le temps. On remet les gens en sécurité avant qu'ils partent, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Raphaël d'être venu apporter ce témoignage à ce micro. Je sais que c'est pas facile de donner son témoignage de vie comme ça, mais en tout cas je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. C'était Petit Sujet Psychologique, merci, au revoir.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
I like going to church and meeting my friends, and I get happy when the preaching begins. I like singing songs about Jesus loves me. And I'm a part of God's family. I like big amens and sweet hallelujahs. I like shaking warm hands and sharing hallelujahs. Some folk like to sit and debate who's to blame for all the war and hate. Well, in light of all this, I think it's a must to hear all we can about a judge you can trust. I like going to church and meeting my friends, and I get happy when the preaching begins. I like singing songs about Jesus loves me, and I'm a part of God's family. I like big amens and sweet hallelujahs. I like shaking warm hands and sharing hallelujahs. Some folk can't make up their mind. Someday they're gonna find they're left behind. Well, I'd rather be in the
the house of God, they're following the path that old Satan has trod. And some folks say that God is dead, they don't believe a word that he ever said. Well, I'd rather place my trust in God than spend eternity underneath the sod. I like going to church and meeting my friends, and I get happy when the preaching begins. I like singing songs about Jesus loves me, and I'm a part of God's family. I like big amens and sweet hallelujahs. I like shaking warm hands and sharing how to do yours. I like big amens and sweet hallelujahs. I like shaking warm hands and sharing hallelujahs. I like big amens and sweet hallelujahs. I like shaking warm hands and sharing.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était Petit Sujet Psychologique avec Éléonore Tarlet que vous retrouverez mardi prochain sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Depuis plusieurs semaines que nous parcourons cette série, nous sommes avec vous, Philippe Delez, bonjour.
Bonjour Gaël, et je vous souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs.
Eh bien nous poursuivons notre découverte de ce livre du prophète Daniel qui se trouve dans l'Ancien Testament. Lors de notre dernière émission, Philippe, vous nous aviez parlé d'une prophétie qui concernait la première venue du Christ.
Oui, et chose promise, chose due, mais auparavant je désire souligner quelque chose d'important soit pour Daniel et pour nous également. Daniel était un étudiant de la parole de Dieu. Il était au courant des prophéties du prophète Jérémie qui avait débuté son ministère prophétique environ une trentaine d'années avant lui. En 627 avant Jésus-Christ, Jérémie avait annoncé la destruction de Jérusalem. Et nous pouvons lire cet extrait du premier chapitre du livre de Jérémie au verset 1. Parole de Jérémie, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, roi de Juda, la 13e année de son règne, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Et au chapitre 25 de son livre et au verset 11, Jérémie nous donne une précision quant à la déportation des habitants de Juda et particulièrement de Jérusalem. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Et Jérémie consolide sa prophétie au chapitre 29 et au verset 10. Voilà ce qu'il est dit. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux.
Donc Daniel, étudiant des écrits prophétiques, s'est appuyé sur cette promesse ?
Oui, Daniel s'est appuyé sur cette promesse. Et vous savez, nous constatons à travers la Bible que malgré toutes les apostasies du peuple de Dieu, il y a toujours un reste qui lui est fidèle. Et Daniel en faisait partie. D'ailleurs, ce reste n'avait de cesse de prier pour le peuple et son retour à Jérusalem. Daniel intercède lui aussi pour ce retour et pour le peuple juif. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à lire la prière de Daniel au chapitre 9, du verset 4 au verset 19. Je vais vous lire ce qui est dit au verset 2. « La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Alors Daniel, grâce à ses études de la parole qu'il prenait au sérieux, il jeûnait et priait dans un esprit d'humilité. Et le sac et la cendre étaient un symbole de l'humilité. Donc Daniel a pris conscience que la prophétie arrivait à son terme et que Dieu allait agir. Alors il se plaça comme intercesseur pour le peuple juif. Et nous retrouvons ça au chapitre 9, verset 20. Je vous cite. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Dans ce texte, il est cité la sainte montagne de Dieu et cette sainte montagne représente le peuple de Dieu.
Donc si je comprends bien, maintenant l'ange va donner l'explication de la prophétie à Daniel ?
Oui. Alors maintenant, allons chercher cette prophétie ou cette vision concernant la venue de Jésus. Lisons dans le livre de Daniel, le chapitre 8, à partir du verset 13. Et là, nous sommes dans la seconde vision du prophète, et toujours dans les actions de cette petite corne. Daniel est spectateur et témoin du dialogue entre les deux anges qui lui montrent cette vision. Et je cite. « J'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, je n'évoquerai pas aujourd'hui le sanctuaire, qui est d'une importance capitale. Nous y reviendrons lors de prochaines émissions.
Mais je vois que nous avons déjà là un chiffre important. Et suite à notre dernière émission sur les temps, les jours, quelle est la durée réelle de ces 2300 soirs et matins ? La Bible précise-t-elle quelque chose à ce sujet ?
Oui, Gaël, nous avons une précision à ce sujet. Et comme nous l'avons dit, la Bible s'explique par elle-même. Et la Bible nous donne une réponse concernant les soirs et matins. Nous trouvons une réponse déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et là, nous avons déjà une réponse concernant les soirs et matins. Il s'agit d'un jour littéral de 24 heures. Nous avions évoqué lors de notre précédente émission, et nous l'avons démontré bibliquement, que dans cette prophétie, les jours littéraux correspondent à des années. De ce fait, 2300 soirs et matins sont 2300 jours qui représentent 2300 ans. Et pour consolider tout cela, lisons la suite des versets du livre de Daniel, chapitre 8, verset 15. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaye. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. »
Pouvons-nous dire que la fin de ces 2300 années dans cette prophétie corresponde à la fin des temps ?
Non, pas vraiment, mais elle correspond au commencement de la fin des temps.
Donc c'est un peu le début de la fin ?
Oui, pas tout à fait non plus. Que nous dit le verset 17 du chapitre 8 de Daniel ? Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé et je tombai sur ma face. Et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » D'ailleurs, l'ange lui dit ceci au verset 26, et la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Mais ne brûlons pas les étapes. Nous décortiquons cette prophétie avec l'étude du livre de l'Apocalypse.
Alors, pour en revenir au prophète Daniel, il va donc découvrir ce qui va se passer durant ces 2300 années ?
Oui, Daniel va recevoir des précisions, voire des détails concernant cette prophétie. Et nous aurons l'occasion de les développer dans notre prochaine émission.
Alors, à bientôt.
Oui, à bientôt, mais auparavant, je vous invite, si vous voulez bien, de vous munir pour la prochaine fois, si vous voulez bien, je dis bien, d'une règle, d'une feuille, d'un crayon, ainsi que d'une calculatrice.
D'accord, très bien. Alors, à la prochaine fois avec tous ces éléments, Philippe.
Merci, Gaël. Au revoir.
Au revoir.
Thank you. sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste et vous écoutiez La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et bien sûr tout cela en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.